la société évolue avec difficultés. Et pour les femmes, il va falloir, je pense, encore 10-15 ans, malheureusement. Hein.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ces 2 mois de confinement se sont passés au mieux pour chacun d'entre vous et surtout que vous avez traversé cette période avec le plus de positivisme possible. Parce que dans chaque période négative, il faut savoir trouver du positif. Parole de Michael Jordan. Et s'il y a bien une personne en qui ces quelques mots résonnent, c'est bien Alison Pinault, joueuse emblématique de l'équipe de France de handball et invitée de notre nouvel épisode. Quand on est championne du monde, championne d'Europe et vice-championne olympique, on pourrait croire que rien ne peut vous atteindre. Et pourtant, c'est bien de blessures dont nous avons discuté avec l'une des meilleures joueuses au monde. Comment faire pour se relever après une blessure? Comment faire son deuil sportif? Et surtout, quel est son point de vue sur le statut des femmes de 30 ans dans le paysage sportif en France aujourd'hui? C'est un vrai bonheur de rencontrer cette immense dame du handball, mais surtout une femme forte au charisme indiscutable et au tempérament bien trempé. Alors si avec cet épisode on peut vous apporter une petite dose de positif en plus, le pari sera gagné. Et n'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube pour découvrir la vidéo qui accompagne cet épisode.
Quand il y a quelqu'un qui tombe à côté de nous, qui est moins bien, bah, il y a toujours des gens pour nous aider. Et puis nous, on peut être là pour soutenir les autres quand ils en ont besoin.
C'est tellement plus facile d'avancer en meute.
On devient bien plus que des coéquipières, généralement.
On se sent lié.
C'est l'école du partage, de l'humilité. Toutes les cultures sont mélangées et on apprend chacune des unes des autres et ça, ça n'a pas de prix pour moi.
Quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin.
C'est une richesse, c'est la vie.
Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport et c'est ce qui fait la beauté de cette équipe de France.
Vous y retrouverez 5 des joueuses de l'équipe de France de handball pour une interview bande de filles qui déboîtent. Pour le moment, on vous laisse avec Alison Pinault.
Salut Alison.
Salut.
Eh ben merci beaucoup, on est super contente de t'avoir pour cet épisode du podcast.
Avec plaisir.
Donc Alison, je vais faire un rapide, CV de qui tu es pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas. Très rapide, je vais quand même passer plein de choses pour aller, on va dire, droit au but et particulièrement me concentrer sur l'équipe de France. En gros, ça fait 13 ans maintenant que tu es dans l'équipe de France. T'as été vice-championne olympique en 2016. Championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018, tout ça en handball, je ne l'ai pas précisé, mais en handball. Et tu as été aussi élue meilleure joueuse du mondial quand tu avais 20 ans, du monde, pardon. Et là, tu prépares juste ta 4e Olympiade à Tokyo, tranquille.
Tranquille, je sais pas, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais forcément, je suis très fière de pouvoir prétendre à cette 4e Olympiade.
Et je suis aussi très contente parce que c'est vrai que d'habitude, nous, dans le podcast, on a plutôt l'habitude de s'entretenir avec des femmes qui ont pas forcément beaucoup de visibilité, que ce soit médiatique ou parce que, voilà, c'est pas forcément des athlètes de haut niveau. Et en tout cas, c'est des femmes qui sont plutôt des inconnues du grand public, ce qui n'est pas ton cas. On peut quand même dire que t'es une des athlètes, je pense, le plus identifiée maintenant au niveau des athlètes féminines en France. Et justement, c'est aussi, on va dire, ça a été plus compliqué pour moi parce que du coup, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que tu avais déjà fait beaucoup d'interviews. Et la première question que je me suis posée, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je vais lui poser comme question, quoi. Voilà, ça a été un peu la première.
C'est bien, c'est important.
C'est important. Je dis, j'ai pas envie de rabâcher la même chose que tout le monde. Et enfin bref, et en fait, pour te dire les choses un peu connement, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai regardé ma jambe, qui est actuellement une jambe de bois pour les gens qui nous écoutent, qui ne le savent pas. Et je me suis dit, ok, bon, alors je vais commencer avec un sujet qui est peut-être un peu atypique, mais j'ai envie de parler de blessures. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que c'était un thème que tu abordais assez souvent finalement dans tes interviews aussi, la blessure. Et ma première question, du coup, ce serait, est-ce que tu dirais finalement que les blessures, donc qu'elles soient physiques ou blessures personnelles que tu as eues, elles ont forgé la femme que tu es aujourd'hui, la femme et l'athlète.
Tout à fait. Je pense que, de toute façon, dans une carrière, et je pense que pour tous les athlètes, il y a toujours des hauts et des bas, et il y a toujours des blessures. Et je pense que c'est difficile d'avoir une carrière longue sans blessures. Je pense que c'est quasi impossible, surtout aujourd'hui, parce que tous les athlètes sont des athlètes. Ça paraît quand même stupide de dire ça, mais moi, quand j'ai commencé, je sais que toutes les femmes qui jouaient un handball n'étaient pas des vrais athlètes. Les profils qu'on retrouvait sur la scène internationale ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc toutes les femmes n'étaient pas des athlètes, et donc il y avait quand même une exposition, je pense, physique qui était différente d'aujourd'hui. Et bien sûr, les blessures, c'est un moment qui est quand même assez particulier, parce que c'est un moment où finalement on se remet en question, de comprendre déjà pourquoi on s'est blessé. Ça, c'est, je pense, une longue traversée des fois du désert qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que moi, je me suis blessée à un moment donné dans ma carrière. Ma première grande blessure, ça a été au Mondial 2011, sur une demi-finale à 5 minutes de jeu, 6 mois avant les Jeux de Londres, et j'étais au top de ma forme. J'avais explosé, j'avais prouvé. Et donc, ça arrivait juste après, je pense, un an et demi après mon titre de meilleure joueuse au monde. Et il y a eu une extrême frustration par rapport à ça, parce que j'arrivais un petit peu pas au sommet de mon art, parce qu'à 20 ans, on n'est pas au sommet de son art, mais
t'étais en pic de forme.
On est en gros, gros pic de forme. Et je me préparais pour Londres, parce que c'est vrai qu'il y avait. J'avais été un peu... J'étais jeune quand j'ai fait Pékin. Justement, j'ai attendu pendant 4 ans ce moment. Et c'est vrai qu'à 6 mois de me blesser comme ça, j'ai été piquée dans mon orgueil, dans mon égo. Parce que j'étais vraiment sur un pic de forme, et je me sentais un petit peu intouchable par rapport à ça. Et ça m'a fait comprendre énormément de choses. J'ai eu une prise de conscience, même que... de me dire qu'en fait personne n'est invincible, personne n'est intouchable, et que on a beau être dans une super forme et qu'on n'est pas à l'abri, et que justement finalement c'est quand on est en super forme qu'on est le plus exposé, parce que on est drivé, je dirais, pas forcément sur le ressenti de notre corps, mais on est habité, je dirais, par cette réussite, ce state of mind qu'on ressent, où finalement on surfe un petit peu sur quelque chose.
Ouais, t'es un peu sur un nuage, quoi.
Voilà, t'es un peu sur un nuage, t'es en réussite, même dans des conditions qui parfois ne devraient pas te réussir. Mais il y a vraiment cet état, je dirais, où tu surfes, et donc t'écoutes pas forcément les bons indicateurs. Donc ça m'a permis vraiment ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Par rapport à plein de choses, et surtout de me dire que ma carrière pouvait s'arrêter à n'importe quel moment, parce que quand on se blesse, on ne sait pas comment on va revenir, même par la plus grande volonté du monde, même si psychologiquement on est prêt à combattre et qu'on est prêt à donner à faire n'importe quoi et à se donner les moyens pour revenir, finalement c'est notre corps qui commande.
Tu te parles du côté physique, mais finalement l'aspect mental là-dedans, il est hyper présent aussi.
Ouais, totalement.
Ton corps veut pas, mais toi, je veux dire, ouais. Si mentalement derrière, tu te laisses abattre, on va dire, parce que t'as une blessure, c'est mort. C'est là où finalement c'est fini, non?
Totalement, je pense que ça part de là. Si mentalement t'es prêt à tout affronter, déjà, la blessure c'est quelque chose, et il y a plusieurs processus, parce qu'il y a le processus finalement d'acceptation, il y a le moment de frustration, il y a le moment, je pense, où on réalise qu'on est blessé, on est blessé en nous-mêmes, on se dit, une blessure, on va être écarté, donc on est peiné. Après, il y a la frustration. Il y a vraiment cet état de frustration où on sent que, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à ce moment-là? Puis après, il y a la phase d'acceptation. Et finalement, la phase d'acceptation, c'est la plus importante, parce que tant que t'as pas accepté d'être blessé, et que, justement, tu switches, et là, tu te prépares vraiment dans ta phase de rééducation, etc., t'es un peu entre les deux. Et je trouve que, c'est une vérité, parce que moi, j'en ai beaucoup parlé, quand j'étais au CERS, donc, à Cap-Breton, avec des athlètes qui étaient pas forcément des athlètes de haut niveau, mais qui étaient des athlètes amateurs. Et je leur disais, mais tu sais, tant que t'accepteras pas, tant que tu seras frustré de ta blessure, etc., tu seras toujours, t'auras des jours où tu te sentiras bien, des jours où tu te sens moins bien, etc. Et justement, tu oscilles entre les up and down. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop, que j'ai pas trop connu dans mes moments de blessure, c'est à partir du moment où j'arrive au CERS, je suis là pour tout déboîter. Et c'est marrant d'avoir c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de discussion parce que tu peux avoir des athlètes de niveau qui se lèvent à battre et des autres des amateurs qui sont là, mais non, en fait, je vais pas subir. Je suis là vraiment pour reconquérir, je dirais, un peu mon corps, même psychiquement. C'est vraiment une étape, je pense, qui forge.
Parce que quand on regarde un peu ta carrière, en fait, on a un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que t'as eu, comme tu disais, des up and down, t'as eu des blessures, etc. Et on a l'impression que finalement, il n'y a jamais rien qui t'a ébranlé.
Ouais, si, quand même. si, il y a des choses qui m'ont ébranlé. Je pense que je suis pas dans la même optique qu'il y a 10 ans. Quand je me suis blessée, j'étais très jeune. J'avais envie de conquérir le monde, entre guillemets, l'Europe. J'avais énormément de choses à me prouver à moi-même et à prouver aux gens qui m'avaient fait confiance, aux gens qui m'ont permis justement d'éclore. Voilà, je voulais être la meilleure, je voulais tout défoncer et donc forcément les années sont passées, je me suis de nouveau blessée un petit peu pas aussi gravement, je dirais qu'avant Londres mais avant Rio. Et donc de nouveau, je confronte ma blessure avant les jeux de Rio où de nouveau j'étais dans une forme, je sortais d'une saison exceptionnelle, la plus belle de ma carrière. J'étais dans le top 3 des meilleures marqueuses de Ligue des Champions. Et de nouveau, je me blesse en fin de saison avant les Jeux. À croire que je suis un chat noir avant les Jeux, blesse avant les Jeux. Mais j'ai réussi malgré tout à passer au-dessus de ça.
Mais ça a été plus difficile.
Ouais, ça a été plus difficile parce qu'il y a eu la cicatrice de Londres. Ouais. Qui a mis énormément de temps, je dirais, à se refermer, à passer outre. Et c'est vrai que j'avais un peu les démons de tout ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. On va jamais y arriver. Je vais jamais arriver à conquérir cette médaille olympique. Et puis, il en a été autrement.
Comme quoi, finalement aussi, encore une fois, l'aspect mental, tu t'es dit, même si c'était plus compliqué, il y a quand même eu ce truc de « je vais y arriver », quoi.
Ouais,
toujours cette rage, quand même, finalement.
Ouais, il y a toujours cette rage. Le mental, c'est ma plus grande force. C'est quelque chose que je pense que j'ai forgé dans ma jeunesse, de la manière dont j'ai été éduquée, les choses que j'ai confrontées. J'ai été élevée par ma mère toute seule. On était 3 enfants, donc il y a des choses qu'on affronte quand même différemment dans le quotidien et de la manière dont on grandit. J'ai grandi en banlieue aussi, donc tout ça, ça fait partie de mon histoire et ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui. Les valeurs que ma mère qu'elle m'a inculquées, c'est tout ça. Donc l'aspect mental. Je pense que ça fait vraiment partie de moi et c'est comme ça que j'ai construit ma carrière. J'ai grandi dans le club de la CM Aubervilliers. C'est le club qui m'a détecté ça m'a forgé tout ça. Ça m'a aidé à affronter des situations dans le sport parce que quand tu viens de la rue, t'as aussi les crocs, t'as envie de t'en sortir. C'est aussi un vecteur. Le sport, c'est pour ça que c'est un vecteur social. Le sport, c'est hyper important. Parce que tu peux sortir, ça peut te permettre de sortir d'un milieu difficile. Même si moi, franchement, je me plains pas, à part du fait que j'ai été élevée on était 3 enfants, élevée tout seul avec ma mère. Mais là où j'habitais dans la banlieue, mais j'habitais pas dans une grande tour. Il y avait pas des bastons tout le temps de chez moi, ou il y avait pas la drogue, il y avait pas tout ça. Même si ça influençait à un moment donné aux alentours. J'ai bien vécu, j'étais pas dans les super conditions, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais je m'en plains pas parce que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses.
Est-ce que t'es fière de la personne que t'es aujourd'hui, avec tout ce que t'as dû surmonter, justement, tout ton passé, ton histoire, etc. Là maintenant, t'es pas vieille, hein, t'as 30 ans, mais est-ce que là, en prenant le recul sur ta carrière, tu dis ok, ouais, je suis fière de moi, c'est quand même ce que j'ai accompli, c'est quand même dingue.
Ouais. C'est vraiment ça que les gens autour de moi, mes proches, surtout mes amis, quand on a des discussions, on me dit ouais, tu faut que tu sois fier de tout ce que t'as fait. T'as 30 ans, mais t'as fait énormément de choses, mais c'est pas que sur le plan sportif. C'est vraiment même plutôt au-delà, je dirais, du handball, tout ce que je fais en dehors, comment, toutes les choses que j'ai pu accomplir. Et on me dit, ouais, faut que tu sois fier de ça, parce qu'à 30 ans, il y a énormément de gens qui enviraient ce que t'es devenue en tant que femme.
Complètement. On en reviendra après, parce que c'est vrai que du coup, moi, ça m'intéresse aussi de connaître un peu la Alison hors sport. Mais pour continuer sur l'aspect du coup blessure qui m'intéresse pour le moment, là, on parlait, c'est vrai que je te posais cette question sur des blessures qui sont personnelles au final. Il y a des blessures qui sont aussi collectives. Je ne peux pas ne pas poser la question. Mais c'est vrai que par exemple, en parlant de blessures collectives, là, au mois de décembre, il y avait le mondial. Vous avez fini 13e alors que vous étiez tenante du titre. Là, c'est encore une fois une blessure, tu vois. On est encore sur cette même thématique, sauf que c'est pas une blessure personnelle, c'est une blessure qui est vraiment collective. Est-ce que c'est plus difficile finalement de se remettre de ce genre de blessure quand c'est collectif que quand c'est personnel?
C'est une bonne question. C'est une très très bonne question, parce que moi, je me pose pas la question de cette manière. Ouais. Je pense que la vraie différence, c'est que quand c'est collectif, on peut s'appuyer sur les autres. C'est plus simple parce qu'on est dans l'échange continuellement. On partage certaines émotions que d'autres ressentent et que nous on ressent pas, et vice versa. Et c'est plus simple. Moi, j'ai vécu dans ma carrière, je pense que la plus grande blessure que j'ai eue, ça a été Londres. Vraiment.
Ouais.
Parce que
c'était plus
la douleur que j'ai ressentie, je l'avais jamais connue. Moi, ça m'a empêché de dormir pendant des mois. Je repensais en fait à ce scénario, à tout ce qui s'est passé, au cheminement qu'il y a eu, tout ce qu'on a connu avant. Et je pense que moi, j'ai été très touchée aussi, parce que je me suis battue pendant 6 mois déjà pour revenir, pour faire les Jeux. Et après, il y a eu cette claque supplémentaire avec cette perte du quart de finale contre Monténégro, alors que dans le dénouement du match, on était bien parti. Et il y a cette bascule qui fait que on passe pas ce quart de finale. Donc il y a eu vraiment un traumatisme, vraiment, ouais, pour moi. Et surtout qu'après après les Jeux, je partais à l'étranger. Donc c'était ma première expérience à l'étranger, donc je quittais la France, je quittais tout, et ça a été, les premiers mois en club ont été vraiment compliqués, et finalement j'ai fait mon deuil sur l'Euro 2012, où on n'a pas fait une très bonne place, mais ça a permis d'évacuer, d'échanger sur certaines choses avec les filles, et en rentrant de cette compétition, je savais que j'avais fait mon deuil et que j'étais prête vraiment à repartir au combat, pour le club, pour l'équipe de France, pour les échéances à venir.
Non, mais en fait, c'est le collectif qui a soigné une blessure personnelle, si je peux dire, entre guillemets.
Ouais, mais ça a été une blessure collective, parce que ce quart de finale, on avait déjà été plusieurs chez les anciennes à avoir vécu en fait Pékin. Et Pékin, on a été très marqués, parce que finalement c'était la fin d'une génération, et derrière, c'était nous qui reprenions le flambeau. Donc ça a été aussi douloureux, un scénario aussi compliqué, une double prolongation perdue contre la Russie. Donc il y a toute une histoire, et là aussi finalement on était avec un groupe qui était arrivé à maturité, qui était prêt, qui avait vécu un mondial 6 mois auprès compliqué, avec 3 blessures importantes, et qui avait malgré tout réussi à arriver en finale. Mais on n'avait pas réussi à conquérir ce titre de championne du monde. Et je pense que si on n'avait pas connu ces 2 blessures, je pense qu'on l'aurait gagné. Mais on ne peut pas refaire le monde avec des si.
Bien sûr.
On peut imaginer tous les scénarios, mais ouais, finalement, je ne sais pas si on l'aurait été. Mais en tout cas, notre groupe est arrivé à maturité. Et dès ce premier match au jeu contre la Norvège, j'ai senti ce truc. Et ça a été une désillusion, mais incroyable.
Pour faire un parallèle, même si c'est pas possible de faire de parallèle, mais finalement, là, on va dire cette petite désillusion que vous avez eue aussi il y a un mois. Ouais. Finalement, est-ce que vous êtes vraiment dans cette démarche? Je veux dire, ok, c'était une claque. C'est aussi un truc difficile à... Ça a été un moment difficile pour vous, parce que vous n'aviez pas ces ambitions-là. Mais finalement, en fait, ça nous motive encore plus, là, peut-être pour en perspective des Jeux de Tokyo. C'est quoi un peu votre état d'esprit?
Moi, je pense que c'est vraiment... C'est ça. On s'est pris une belle claque, honnêtement, faut le dire, passer de la championne du monde à 13e, quand même, faut pas le dire qu'on va le digérer comme ça. Mais malgré tout, ça permet de resituer les choses un petit peu, de remettre l'église au milieu du verre et de dire que t'as pas le temps de te reposer sur tes lauriers. Voilà, on s'est, ça s'est pas passé comme on le voudrait. On aurait aimé qu'il en soit autrement, mais voilà. On se remet en question et je pense qu'on va avoir les crocs vraiment pour les jeux. Ça va nous permettre de rentrer un peu dans un état d'esprit qu'on a connu.
Les combattantes, quoi.
Voilà, pour Rio, c'est pas la même douleur parce que on a la chance d'être qualifié sur l'Euro qu'on a gagné à la maison. Ouais. Et donc c'est un échec, mais c'est pas un échec qui a des répercussions, je dirais, rédhibitoires. Donc l'approche, je dirais, n'est pas la même sur de la manière dont on vit voilà, je dirais, l'échec.
Ouais, l'objectif l'objectif, on va dire suprême étant les Jeux Olympiques, quoi.
C'est ça.
Pour revenir sur l'équipe, c'est vrai que toi, ça fait t'es une des tôlières de l'équipe. Ça arrive de dire ça, on a l'impression que t'as 62 ans, mais mais non, pourtant, mais c'est la vérité. T'es un peu aussi, tout le monde le dit, t'es un peu la figure de proue de l'équipe. Comment tu l'expliques aussi, ça, justement, que même il y a encore quelques années, alors que ça faisait moins longtemps que t'étais dans l'équipe, t'étais déjà un peu cette figure de l'équipe?
Je pense que c'est dû du fait que je suis arrivée très jeune. Donc, j'ai été un potentiel très jeune qui devait prétendre à tout ça. Par les performances, tout ce qu'on a fait voilà, avec l'équipe, avec les anciennes, ça m'a permis justement d'éclore. Même mes expériences à l'étranger, ça m'a aussi permis voilà, de grandir en tant que femme. Et finalement, ça m'a donné aussi de l'assurance pour pouvoir exister, je dirais, par moi-même.
Ouais, donc il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect personnalité.
Ouais, tout à fait, mais... Finalement, quand on est dans un sport co, c'est aussi la complexité, c'est que on existe en tant qu'équipe, parce que finalement sans l'équipe, on n'est rien. Mais on doit aussi, je pense, exister par nous-mêmes, parce que on représente quelque chose pour toutes les jeunes filles, pour le sport féminin, mais pour le sport aussi en général. Et donc c'est important aussi de s'identifier, de savoir qui on est, sans voilà se détacher de l'équipe.
Ouais, justement, tu réponds à ma question d'après, qui était en fait comment tu fais. Dans des sports co, on le voit, c'est quand même plus difficile d'exister en tant que personne parce que bah, t'es quand même dans un collectif. Donc pour émerger, c'est plus compliqué quand tu fais un sport individuel et que forcément, bah, c'est ta performance à toi qu'on va mettre en avant. Comment tu fais? Et là, je pense du coup plus particulièrement peut-être à la jeune génération de l'équipe qui arrive, qui du coup n'est pas encore identifiée. Comment tu fais pour te faire identifier justement et qu'on dise « Ah bah tiens, c'est telle ou telle personne à l'équipe, ouais, non, mais elle a 17 ans, enfin, ou 20 ans, peu importe. Et ouais, elle est canon, c'est cool. » Et pas du coup, parce que là, quand, soyons objectifs, quand tu demandes de citer des gens de l'équipe de hand à l'heure actuelle, on va citer toi, Alexandra Lacrabert, tu vois, voilà, plutôt les pionnières, quoi.
Oui, je pense que c'est normal, ça, surtout dans le handball. Ça a toujours été comme ça. On voit les jeunes arriver, mais c'est toujours, on parle toujours des anciens, des anciennes, voilà, des tauliers ou des taulières.
C'est un peu la même chose chez les garçons d'ailleurs.
Ouais, c'est l'accompagnement finalement. Et les jeunes sont pas identifiés, mais pour être identifié, ça part déjà par les performances. Ça s'est passé comme ça pour moi et pour plein d'autres avant moi. Et c'est, je pense que le meilleur cheminement, je dirais, pour accompagner les jeunes, pour pas tout de suite les mettre sur le devant de la scène et justement être un peu perdu par la suite ou voilà se tirer un peu une balle dans le pied. Moi, je suis énormément tous les sports, mais je suis aussi énormément le football que j'aime. Et c'est souvent ça, les médias, c'est qu'ils voient des jeunes à fort potentiel, ils les exposent, la presse les expose, il y a une énorme pression. Puis finalement, c'est des jeunes que quelques années plus tard, on n'entend plus parler ou qui sont plus les superstars qu'on imaginait devenir. Mais c'est parce qu'on leur a mis une telle pression très jeune, qu'ils n'ont pas été super bien accompagnés, etc. Et ça, c'est surtout le danger d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Et bah, y a un énorme risque et faut tendre la main à tous ces jeunes, les entourer comme il faut pour leur permettre, je dirais, de rester voilà, la tête sur les épaules.
Donc finalement, c'est marrant parce que ton discours, on se dit... Finalement, des fois, il faut peut-être mieux rester dans l'ombre, en fait.
Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que c'est vrai que les gens, voilà, les supporters, les gens qui sont lambda, la société, des fois, les gens, ils n'imaginent pas ce à quoi on est confronté au quotidien, je dirais, par rapport aux médias, les réseaux, tout ce genre de choses, parce que ça me fait rire quand je parle de ça, parce que c'est à chaque fois ce que je dis avec les gens. Des fois, quand je regarde des matchs, je dis mais vous rendez pas compte. Parce que moi, je pense souvent aux familles. Les gens, des fois, ils disent des choses sur les réseaux, dans les médias. Mais les premiers à souffrir de ça, c'est pas forcément nous. C'est ouais. Nos parents, nos frères, nos familles. Parce que eux, ils sont touchés et ils disent oh, par protection, bah, ma mère a dit ah, mais c'est ma fille qu'on attaque. Regardez ce qu'ils disent, etc. Et moi, c'est ça vraiment qui me fait du mal. C'est surtout par rapport aux familles. Après. Voilà, chacun, on est dans une société voilà, de libre expression, j'ai envie de dire. Et donc, chacun est libre de dire ce qu'il a envie. Mais des fois, tu vois des choses passer et tu dis, mais les gens, vous ne réfléchissez pas avant de parler. Vous ne savez pas la réalité des faits. Parce que c'est ça vraiment le truc. C'est que finalement, quand on n'est pas présent, on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas là, on ne connaît pas la vérité des faits. Et moi, c'est vrai que des fois, ça crée de la frustration ouais. Parce que voilà, des choses qui sont dites et c'est pas sympa.
T'en as souffert toi dans ta carrière ?
Non, moi, j'en ai pas souffert parce que je me suis extirpée de ça. C'est-à-dire que je passe pas mon temps à lire les commentaires sur les réseaux, à ce que les gens disent, parce que sinon, ça te fait tourner la tête et je pense que ça te blesse, parce que de toute façon, t'as toujours des gens qui sont pour. Voilà, qui sont pour toi, qui sont pro toi, et il y a des gens qui sont contre. Et ça, c'est la société qui veut ça, c'est qu'on partage pas tous les mêmes opinions, on n'a pas tous les mêmes avis, et c'est normal, c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Et donc, c'est une perte de temps de savoir ce que chacun et chacune pense. Ça peut te faire énormément de mal, et tu peux être, je pense, blessé dans ton amour propre et dans ton ego en lisant tout ce qui se dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc ça sert à rien. Moi je me suis non mais franchement moi je me suis protégée de ça parce que j'ai un entourage et je pense j'ai assez de recul pour savoir quand j'ai bien fait les choses et quand je les ai pas bien faites ou quand j'ai fait des erreurs, je sais le reconnaître. J'ai un entourage autour de moi qui est pas là pour m'adouber et qui est bien au contraire est là pour voilà me garder, je dirais un peu les pieds sur terre, ouais. Voilà, la tête bien ancrée sur les épaules et donc j'ai pas besoin de lire ce qu'il dit sur en disant ah elle était nulle, oh, elle a été voilà. Non, j'ai pas besoin de ça, ça ne renforce pas mon ego et au contraire de savoir que je suis bien entourée pour avoir des échanges bien construits, ça renforce, je dirais voilà, la personne que je suis.
On sent que tu donnes quand même de ton temps justement pour les médias, pour des interviews, pour des choses comme ça. Est-ce que tu te sens le fait d'être mise en avant et médiatisée aussi une espèce de mission de porte-parole un peu de ton sport et de visibilité pour ton sport ?
Je dirais pas mission, mais pour moi c'est un devoir. J'ai le privilège d'avoir cet accès aux médias, de pouvoir échanger, de dire des choses qui j'espère ont du sens pour parler de mon sport. Donc pour moi, c'est quelque chose qui compte. Je trouve que quand on a les moyens de faire quelque chose, c'est dommage de passer à côté de cette occasion pour faire des choses, améliorer la visibilité de notre sport, qu'on s'intéresse à nous.
Et justement, c'est quoi ton point de vue sur la visibilité de ton sport à l'heure actuelle ? Je sais que c'est une question qu'on te pose beaucoup, mais... Il y a eu pas mal d'événements sur les derniers mois entre votre diffuseur au tout début d'année qui se fait la malle, hein, on va dire, vulgairement. Puis vous retrouvez un diffuseur. Et après, c'est vrai que là, les matchs du championnat du monde étaient diffusés à la télé. C'est quoi ton point de vue, toi, là-dessus, là, à l'heure actuelle ?
Mon point de vue, c'est de dire qu'on avance. que on en parle de plus en plus, que les gens s'y intéressent de plus en plus, mais qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir. La vérité, c'est ça, c'est qu'on fait des petits pas. On est encore loin, je pense, du maximum qu'on pourrait faire. Mais malgré tout, il y a comme ça bouge. Les lignes sont en train de bouger. C'est un combat de tous les jours qu'il faut mener sans cesse, parce que au-delà du sport, c'est les femmes dans la société quand même. Parce qu'avant tout, on est des femmes.
Exactement.
Et donc, c'est un combat vraiment de tous les jours, comme j'ai dit. Et le combat ne fait, je dirais, que commencer. Il va être long. Ça a duré plus de 50 ans avant qu'on puisse, nous considérer. Et donc on est qu'au début, je dirais, de ça.
Et c'est quoi, selon toi, les prochaines étapes qui sont importantes?
Je pense que... Il y a une vérité. Je vais parler de politique. On a eu le premier président afro-américain finalement en 2008. C'est pour dire quand même à quel point il faut du temps pour que les choses évoluent. On voit quand même dans le cinéma, aux Oscars, etc., pas énormément quand même d'afro ou de personnes du Moyen-Orient, etc., enfin maghrébines, etc., qui sont quand même oscarisées. On voit de temps en temps à la télé des présentateurs, etc. Donc la société évolue avec difficultés. Et pour les femmes, il va falloir, je pense, encore 10-15 ans, malheureusement. On ne va pas aller plus vite que notre homme, mais... c'est vrai que le jour où on aura des femmes qui pourront, prétendre à des postes régaliens, comme on dit, on aura passé une étape supplémentaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, statistiquement, on voit pas énormément de femmes, sur des postes clés. Le nouveau PDG par exemple de Renault, ça va pas être une femme. Enfin, voilà. Le jour où on arrivera à se dire, on peut mettre une femme à ce poste-là, on aura quand même, je pense qu'on aura fait déjà, on aura parcouru beaucoup de chemin, même si il existe des femmes qui sont de grandes entrepreneuses qui sont très fortes, qui sont millionnaires. Moi, j'en connais. Mais aujourd'hui, statistiquement, on n'en a pas énormément comparé, aux hommes.
Non, mais en fait, pour améliorer, on va dire, même au niveau de la médiatisation du sport féminin, ça vient aussi, selon toi, juste de mettre en avant plus les femmes, en fait.
Ouais, totalement. Par exemple, c'est, je vais rester dans le sport et je vais dire, président du CIO, c'est un homme, c'est pas une femme. Le vice-président, c'est pas, c'est pas une femme. Ouais. Donc, ça passe aussi par les instances. Donc, finalement, c'est la société en général. C'est-à-dire, très souvent, les lignes bougent. Quand on est
au sein même des fédérations, même,
exactement,
à plus petit niveau.
Vous êtes
la Fédération Nantes, vous êtes un bon élève.
Je crois parité, que
c'est malheureusement pas partout pareil, je crois.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà.
Ouais. J'aimerais bien du coup aborder aussi une autre. Ma pauvre, tu vas vraiment croire que je vais te mettre au placard de la partie peut-être plus reconversion. C'est vrai que c'est intéressant aussi, que je sais que t'en parles assez souvent et librement, parce que tu fais des études aussi à côté pour te permettre d'avoir une reconversion derrière et que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Moi, il y a un truc que je trouve déjà hyper intéressant dans le sport et je te pose cette question-là, c'est qu'en fait. Passé 30 ans, il y a un espèce de poids déjà sur les femmes, bon, sur les hommes aussi, mais bon, sur les femmes encore plus, du t'as 30 ans, t'es sportif de haut niveau, mais du coup, plus pour longtemps, quoi. Comment tu le vis, ça, toi, déjà, en tant que femme, de se dire, OK, alors, ça y est, j'ai 30 ans, on est déjà en train de me mettre limite au placard, tu vois.
La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a l'horloge biologique, quand même.
Ouais.
Et il n'y a pas énormément de mamans qui ont des enfants avant 30 ans dans le sport. Il y en a de plus en plus. Merci, mon Dieu.
Heureusement.
Ouais. Mais donc déjà, il y a l'horloge biologique qui nous pèse si on n'a pas eu d'enfant plus tôt. Et bien sûr, derrière, on se dit, si j'ai un enfant, si je le fais à cet âge-là, quelles sont mes chances de revenir? C'est plus compliqué quand même. Notre corps a déjà changé à 30 ans. Il s'est un peu transformé. Et donc, bah, ouais, on se dit, faut quand même penser à préparer l'avenir et se dire, voilà, on est quand même plus proche de la fin que du début. C'est vrai que les garçons, aujourd'hui, ils peuvent jouer jusqu'à 38, 40 ans. On en voit de plus en plus.
Ouais, c'est vrai que dans le hand, c'est vrai que chez les mecs, c'est un bon exemple.
Il y en a énormément. On en a eu beaucoup en équipe de France. Et donc, enfin, masculine. Plus que chez les femmes et donc nous c'est vrai que il y a une vraie réflexion par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va faire, comment on planifie, je dirais un peu notre grossesse, donc c'est pas simple.
On a l'impression justement, alors tu me dis, ça se trouve je me trompe, hein, mais en regardant tes derniers choix de carrière, le fait de revenir à Paris, que maintenant effectivement que t'as passé les 30 ans, t'es plus dans des choix de raison.
Ouais, tout à fait. Parce que j'ai vécu aussi énormément de choses, parce que je suis aussi bercée par ce qui m'attend derrière, que je suis en train de construire, et donc ça, je pense que ça prend énormément de place, et qu'aujourd'hui c'est pas le handball à 10 000%, et puis après, on verra après. Donc ouais, c'est des choix de raison, c'est des choix aussi de vie. Ça compte, je pense que quand on a mon âge, ça compte beaucoup plus que se dire, voilà, je pars là-bas, je suis jeune, j'aurai le temps de rebondir derrière, j'aurai le temps. Aujourd'hui, je suis plus dans cette optique-là. J'ai envie d'habiter dans une ville que j'apprécie énormément, que je peux visiter, où il y a des choses à faire.
Qui est la ville d'origine en plus.
Ouais, je suis très attachée aussi à la culture, à découvrir de nouvelles choses. J'aime les mégalopoles, j'aime aussi beaucoup voyager. Donc, bon, j'adore Paris. Pour moi, c'est cérébral. Je veux dire, c'est pour moi. Voilà, c'est donc voilà. Ça compte énormément pour moi de prendre en compte autre chose que simplement le handball.
Ouais. Et du coup, t'as l'impression d'avoir un peu perdu la. Je sais pas si c'est le bon mot, mais la fougue pour ton sport, ou c'est juste que ça s'est transformé, enfin.
Non, j'ai pas perdu la fougue de mon sport. J'ai juste envie de voir les choses sous un autre angle. Voilà, prendre en considération d'autres paramètres qu'avant j'aurais mis de côté en une fraction de seconde. Ouais. Donc non, la fougue est toujours là. J'ai envie de travailler avec des gens que j'apprécie, avec bienveillance. Et ça compte énormément pour moi.
Ouais, t'as envie de construire, enfin, dire peut-être plus d'être dans la construction maintenant que dans la découverte, on va dire. Comme c'était
moi, on va dire ça comme ça.
Voilà,
ouais.
C'était un peu mal dit, mais
pas forcément la construction. La construction, je pense que j'ai fait que ça à chaque fois,
être
que
dans
la construction. Mais vivre les choses avec aisance, sans prise de tête, sans grande surprise, on va dire.
Ok. Et justement, ouais, donc au niveau de ta reconversion, tu fais des études en parallèle à l'EDEC, en finance. Pourquoi ce choix ? Moi, ça m'intrigue énormément. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, c'est très con, tu vois, mais spontanément, je me dis, ok, bah, elle est sportive professionnelle, pourquoi elle ne se reconvertit pas dans le sport ? Ouais. Pas dans un métier en lien avec le sport ? Pourquoi la finance ?
Ouais, c'est typique, en fait, de se dire, ouais, bah, elle est dans le handball, bah, devenir
ouais,
entraîneur.
C'est une réflexion très con. Ouais, mais clairement.
Non, pas du tout. Ouais. Même si c'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques années, tout le monde disait, ouais, mais tu connais le game, tu sais, tu pourrais être coach. Non, vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, intellectuellement, j'ai passé un palier. Je fais des hautes études qui j'espère, me permettront de prétendre à un travail qui me passionne. J'aurai la chance de peut-être me lever tous les jours en allant pour lui, me disant ouais, je suis contente de faire ce taf d'avoir le sourire comme je l'ai quand je vais à l'entraînement. Mais entraîneur, non. Je pense qu'aujourd'hui, je peux là où j'ai le plus à apporter, c'est pas en tant qu'entraîneur. J'ai tout simplement pas envie de revivre finalement cette vie que j'ai connue dans les aéroports, dans les gares, les hôtels, tous les week-ends, toute la semaine à la salle. Non. Non, okay. Non, j'ai vraiment besoin de faire une pause par rapport à ça. J'ai envie d'accorder du temps aux gens que j'aime. J'ai aussi envie de faire ce que je veux. Et je pense pas que ça soit là que je vais pouvoir m'épanouir. Ouais, mais vraiment pas. Pourquoi la finance ? Parce que j'ai toujours rêvé d'en faire. Okay. J'ai fait un bac ES. Quand je suis arrivée en équipe de France, A, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et à l'époque, je me disais, je rêverais trop de faire une université américaine. C'était l'American Dream, comme on disait à mon époque.
On le dit toujours,
je crois. Ouais, plus trop comme avant. Parce que maintenant, voilà. Je rêvais vraiment de faire une université américaine. Je me disais, je vais faire une année là-bas, ça va être chouette. Et j'ai toujours été intéressée par la finance très jeune. Je m'intéressais à la bourse quand j'étais au lycée. C'est pour ça que j'ai fait ES. Et donc, j'ai arrêté mes études, je me suis toujours dit, et surtout après ma blessure, je me suis toujours dit que je retournerais à l'école à un moment donné ou à un autre pour réaliser un peu ce rêve, on va dire, scolaire.
Et du coup, le but, c'est quoi ? C'est d'être trader ?
Ouais, c'est d'être trader, mais après, trader, c'est pas la finalité, c'est une expérience que j'ai envie d'avoir parce que j'ai toujours voulu le faire. Et donc, c'est une expérience. Je vois beaucoup plus loin que ça. J'ai envie de rester au contact du sport. Donc, j'espère que j'y arriverai. Je vais pas dire comment, par quel biais, mais je vais rester au contact du sport parce que j'ai envie d'accompagner le sport féminin, j'espère devenir peut-être un levier pour mon sport ou peut-être au-delà.
Tu as des projets déjà en tête
Ouais, bien sûr.
Top secret.
Non, pas top secret, mais j'ai des choses auxquelles je pense.
Ouais. Et c'est vrai que pour faire de façon un peu plus générale, mais comment t'expliques ? Tu vois, je pense à l'exemple d'Emilie Andel, il y a quelques mois, effectivement, il y a eu pas mal de médiatisation autour de son cas, si je puis dire, parce que ancienne championne olympique, qui n'arrive pas à trouver du travail. Comment t'expliques que quand on est sportif de haut niveau comme ça, c'est tellement difficile de se reconvertir ?
Parce que, pour parler avec toute transparence, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on a beau avoir le plus beau palmarès, être la plus grande championne, être je sais pas combien de fois, mais si on n'est pas préparé, si on n'est pas accompagné, on n'existe pas. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont moins titrés que certains d'autres sportifs et ils existent mieux parce qu'ils sont accompagnés, parce qu'ils ont de la visibilité, parce qu'ils ont fait des choses pour se rendre visibles. Et ça, c'est un fait, c'est que si on pousse pas les autres à parler de nous, on parle pas de nous.
Ça ne le fait.
Voilà, exactement. Et j'ai eu vraiment un déclic il y a deux ans de ça. Maintenant, parce que ça fait 2 ans que je suis accompagnée, c'est ce qui m'a permis, en fait, de passer un palier dans les médias. Et j'ai vraiment eu une discussion et j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai été très impressionnée par Sarah Ouramoun, qui finalement était vice-championne olympique. Ouais. Et elle était plus visible que des athlètes qui étaient champions ou championnes olympiques. Je me disais, mais...
Comment c'est possible ?
Ouais, je me disais... Mais moi, j'ai eu cette vraie réflexion. Ouais. Je me disais, mais... Nous aussi, on a été vice-championne olympique, mais en fait, on ne parle pas de nous de la même manière. Et pourquoi ? Et la vérité, c'est ça. Et surtout, je pense que quand... on n'est pas prêt, on se prépare pas à ça, finalement, il y a une déferlante quand on est champion. Et puis, une fois que ça retombe, il ne se passe plus rien. Et il faut vraiment, je pense, être accompagné pour justement surfer sur la vague. Il faut, je pense, semer quelques graines quand même avant. Et puis, il faut aussi, la vérité, c'est qu'il faut aussi être accompagné avec des gens qui ont quand même du réseau et qui savent se faire connaître aussi des médias et faire connaître leurs athlètes.
Tout à fait. Pour passer du coup, on va sur un autre registre un peu pour en dernière partie, on va dire d'entretien. J'aimerais même parler un peu plus de la, ça fait un très cliché, mais de la femme Alison. Parce que c'est vrai que ça, on voit souvent, comme je disais dans les médias, mais en tant que souvent la sportive, l'athlète, et moins souvent en tant que toi. J'ai lu, tu parles assez souvent de ta famille et t'en as parlé au début de l'interview, comme quoi c'est vrai que c'était le fait d'avoir été élevé par ta mère, que c'était quelque chose qui était très constitutif de ta personne. J'ai lu aussi, c'était une vidéo que j'ai vue où tu disais que la naissance de ton petit frère était hyper importante pour toi aussi, que c'était un événement clé, voire l'événement clé un peu de ta vie. C'est quoi le lien que vous avez ensemble?
Avec ma mère, on est proches. C'est marrant parce que on a deux caractères qui sont très différents, mais qui sont, je dirais, assez comment dire, pas dur, mais c'est vrai que j'étais à Ilva la dure, donc ma mère, elle a tenu un petit peu les deux rôles, donc c'est vrai qu'elle a, elle a un caractère qui est très fort, et moi, je suis quelqu'un, je suis têtu, je me laisse pas marcher sur les pieds, et donc quand j'ai quelque chose à dire, bah je le dis, et donc des fois ça peut faire des étincelles, des fois ça peut faire des étincelles, mais voilà, je suis aussi proche de ma mère, même si on partage des opinions différentes. C'est aussi un pilier dans ma vie. C'est elle qui m'a aussi permis d'en arriver là. Donc c'est une personne qui compte énormément pour moi. Et mon frère aussi, ça restera toujours mon bébé, parce que c'est vrai que j'ai à un moment donné j'ai souffert du fait que je l'avais pas vu grandir comme j'aurais aimé, parce que je suis partie, j'étais en centre de formation, puis après j'ai quitté Paris, et c'était aussi un moment important pour lui dans sa construction. Il avait 10 ans, il était jeune, et c'est un moment important surtout pour les garçons. Donc il s'est retrouvé un petit peu en tant que fils unique, on va dire, et il a été très très protégé, et c'est vrai que dans son développement, c'est un moment que j'ai regardé, donc ça je l'ai pas très bien vécu. À un moment donné, j'avais une grande réflexion par rapport à ça. Aujourd'hui, je le vis bien, parce que je vois qu'il s'en sort et qu'il fait quelque chose qui le drive. Il est heureux, et c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Et donc moi, quelque part, je me sens soulagée. Je me sens soulagée de voir que voilà, qu'il s'en sort bien, et qu'il vit bien les choses, et qu'il les mène à bien.
Et ça a pesé dans le choix de dans la balance, justement, de revenir aussi à Paris pour être plus proche de ta famille?
Ouais, parce que j'avais envie d'être plus proche, même si je suis quelqu'un où je suis à 10 000 à l'heure, et je suis pas forcément toujours là à la maison, mais je sais que s'il se passe quelque chose demain, je peux être là en 2-3 mouvements, que je peux rentrer à la maison, je peux partir. Toutes ces choses-là, ça compte énormément.
Ouais, on peut dire du coup qu'ils ont joué, on va dire, un rôle important dans ta carrière sportive aussi à côté.
Ouais, bien sûr.
Tu disais que c'était une famille sportive. Ouais,
mais bien sûr, même si moi j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre, et que ça a pas toujours, ça c'est pas toujours simple, hein, pour les familles, de même s'ils sont contents pour nous. Des fois, ils aimeraient qu'on soit plus présent, qu'on soit un peu plus là. Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais pourquoi tu fais ça? Des fois, ils comprennent pas. Mmh. Et on peut pas leur en vouloir, même si on leur explique. C'est vrai que il faut vivre les choses des fois pour à côté des autres pour le comprendre. Et des fois, on fait des choses parce qu'on sait que ça paye pas forcément tout de suite, mais ça paiera plus tard, et qu'il faut qu'on le fasse parce que ça fait partie aussi de notre travail. Ils ont vraiment cette place où, à certains moments, j'ai fait des choix pour moi, mais à certains moments, j'ai fait des choix aussi pour eux.
Et quel lien t'entretiens, c'est qu'on... T'es d'origine guadeloupéenne. Quel lien t'entretiens avec ton île aussi? C'est quelque chose qui est important pour toi?
Ouais, c'est important, même si c'est vrai que j'ai pas... Mon problème, c'est que je suis une grande voyageuse. Et donc, je reviens pas assez souvent sur mon île, parce que j'aime découvrir le monde. Et donc, l'été, ma priorité, c'est pas forcément de retourner sur mon île, mais plutôt de...
La découverte.
La découverte, voilà, de pays où j'ai jamais mis les pieds. J'aime mon île. J'y retournerai, je pense, après ma carrière plus souvent. Ouais. J'y remettrai plus les pieds, parce que je pense que j'aurai un petit peu plus de temps. Enfin, je l'espère. Ça, c'est moins sûr. Mais j'aurai un petit peu plus de temps, et puis je serai sortie de toutes ces contraintes.
Et dans ton temps libre aussi, ça m'intéresse, parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué. Je me souviens quand on t'avait rencontré pour la première fois, quand on a tourné la vidéo. En off, tu nous avais dit que tu étais une geek. Et du coup, ça m'avait fait marrer, parce que je me suis dit, ah, c'est marrant, tu vois, spontanément, bêtement, hein, je me serais pas dit, tiens, Alison Pineau est une geek. Et du coup, ça m'avait fait rire.
Ouais.
D'où te vient cet intérêt pour la technologie et...
C'est une bonne question. Je vais essayer de remonter à la genèse de tout ça. J'ai toujours été fascinée, en fait, de l'évolution. Des choses, c'est parti du téléphone, le Alcatel avec l'antenne que ma mère, et je me rappelle du Star Trek, le Motorola, etc. Donc j'ai eu plein de et en fait j'ai toujours été fascinée par ça, l'ordinateur, etc. Puis je suis aussi manuelle, j'aime le bricolage et tout, etc. Donc Je sais pas. J'ai toujours aimé ça. J'ai été aussi l'une des premières qui était attachée au réseau. À l'époque, les gens riaient de moi quand je disais, mais qu'est-ce que tu fais, nana? Et finalement, c'est tous ces gens qui étaient, qui se moquaient de moi, qui sont devenus plus geeks que moi, finalement. Après quelques années, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, tu pouvais pas trop y échapper, quoi. Donc, mais ouais, geek sur les bords. Ouais, c'est vrai.
Et t'as d'autres passions, t'as d'autres trucs hors sport, on va dire, hors hand qui te font kiffer aussi?
Voyage.
Le foot.
Non, mais pas que. Franchement, le foot, mais pas que le foot. Vraiment, le sport en général. Ouais. Moi, j'attends de finir ma carrière parce que je veux aller à l'Open d'Australie. Ou je veux aller au Super Bowl. Ou à Wimbledon. C'est que des trucs comme ça. C'est des
grands événements sportifs.
Ouais, que j'aimerais bien faire. C'est vraiment le sport en général. J'aime beaucoup. Je veux voir beaucoup de sport. Ça aussi, ça a vraiment pesé finalement pour revenir à Paris parce que je me suis dit, ouais, je vais pouvoir aller voir.
L'opportunité de voir
exactement.
Plein d'événements sportifs. Ouais.
J'aime aussi les visites culturelles. J'aime vraiment ça. Après, je pense que je fais des trucs. J'aime bien bricoler. Si, ça, c'est vrai. Après, je pense que je fais des trucs assez basiques, comme tout le monde, lire, écouter de la musique, truc fun.
Et la question un peu bateau, mais c'est vrai que tu te projettes comment dans, on va dire, allez, dans 15 ans.
Dans 15 ans?
Je choisis le, ouais.
Je touche du bois.
Je sais pas si c'est en bois, mais...
C'est pas grave. Ah, là, c'est du bois, voilà. C'est sûr. J'espère que je m'imagine loin de la France. Loin de la France. Après, je ne sais pas où je serai. Je pourrais être en Australie, peut-être aux US ou à Singapour. En train d'effectuer, je pense, le job de mes rêves.
Ok. Et si... Si je devais te dire, là, c'est vrai que c'est un... Finalement, en fait, quel est maintenant, à l'heure actuelle, de la Alison d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est ton plus grand rêve, là, maintenant? Ce serait quoi?
Wow. Ouais. Plus grand rêve. Wow, c'est compliqué. Je sais pas si aujourd'hui j'ai des rêves, mais je pense que j'ai plus des ambitions.
Ouais.
Quand j'étais plus jeune, j'avais des rêves que j'ai réussi à accomplir. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai mûri et je les vois plus comme des ambitions. Et ma plus grande ambition, c'est compliqué. Je pense pas que j'en ai pas qu'une seule. Je pense que la chose qui me ferait le kiffer le plus, c'est d'avoir une famille. Je pense que c'est le premier en top, au top de la liste.
Ouais.
Et ensuite, je pense que c'est en termes d'accomplissement personnel, dans le travail, dans les projets que j'aurais entrepris.
Et du coup, en dernière question, parce qu'on ne va pas te donner la question, parce que tu as déjà répondu à notre question de qui clôt le « qu'est-ce qu'une championne ?» dans la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour les années à venir et plus encore?
D'être en bonne santé et sportivement. Je vais parler sportivement, parce que pour moi, c'est le court terme. De conquérir la seule médaille qui manque à notre palmarès.
Voilà. C'est dit.
C'est fait.
Merci beaucoup, Alison.
De rien.
C'était vraiment cool et on vous souhaite cette fameuse médaille,
ouais,
aux Jeux Olympiques. Et je pense que toute la France est derrière vous. Et merci beaucoup.
C'était avec plaisir.
Pour tout.
Sympa.
Salut.
Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.